Et bonsoir, c'est Yop du label Les Antipodes. Saviez-vous que Vanille venait d'ouvrir une boutique pour son podcast ? Il y a des t-shirts super stylax que vous pourrez arborer fièrement dans la rue. Il paraît même qu'en achetant deux t-shirts, vous favorisez le retour de l'être aimé. Vous n'avez plus aucune excuse, le lien est dans la description. Et maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute.
Tired of ads interrupting your gripping investigations ? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série paranormales et mystères en tout genre. Comment allez-vous? Ça fait un bail. C'est normal, ne vous inquiétez pas, j'ai déménagé, donc ça m'a pris un peu de temps pour me réorganiser et pour pouvoir me poser pour faire un nouvel épisode. Mais aujourd'hui, on va rattraper le retard avec une petite affaire bien creepy comme d'habitude, qui n'est pas très connue en plus de ça, donc comme ça vous avez de l'inédit, c'est vraiment parfait. Enfin, j'espère que vous n'en avez jamais entendu parler comme ça, c'est la surprise. D'ailleurs, avant de commencer, merci en tout cas pour vos messages, vos mails, etc. qui me demandent où je suis passée. Bah voilà, je fais des travaux, donc c'est difficile de se poser, comme je vous ai dit, pour faire un épisode, mais je vous tiens toujours au courant sur mes réseaux Instagram, Twitter, etc. C'est CreepyPod. D'ailleurs, je vous mets le lien en description. Et également, je suis en live sur Twitch tous les dimanches. N'hésitez pas à passer. Des fois, je fais des affaires en live. Dimanche dernier, par exemple, j'ai fait l'affaire Lizzie Borden. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la rediff sur mon Twitch pendant je ne sais plus combien de jours. Bref, tout est en description. Allez voir, rejoignez-nous dimanche. Et puis, rejoignez-moi sur les réseaux, comme ça vous êtes toujours au courant. Quoi qu'il arrive, Invasion Zombie, je vous tiendrai au courant des épisodes. Également, j'ai commencé à poster sur YouTube des vidéos de mes podcasts imagés. Donc, j'ai mis des images, enfin, vous avez sûrement déjà entendu les épisodes, mais j'ai rajouté des images d'illustration dessus, enfin, des images, des vidéos d'illustration, des vidéos d'archives. Et vous pouvez aller regarder si vous préférez. Par exemple, aujourd'hui, je vais aussi faire cette affaire version imagée. Donc, soit vous écoutez un podcast, soit vous allez voir sur YouTube. C'est comme vous préférez. Allez vous abonner d'ailleurs. Mon YouTube, c'est Creepy. Bon, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Je vais vous parler aujourd'hui d'Ahmad Suraji. Ahmad Suraji naît en Indonésie sous le nom de Nasib Kelewang le 10 janvier 1949. Son père était un sorcier autoproclamé et sa mère était mère au foyer et ils habitaient un petit village dont je n'ai pas le nom original mais qui signifierait paix et tranquillité. Nasib grandit donc dans une ambiance un peu morose, ses parents n'ont pas trop le temps pour lui, son père est à fond dans la magie noire, il est d'ailleurs très respecté pour ça dans son village, il a beaucoup de clients et il pratique constamment. Sa mère aussi est très occupée, donc il est un peu laissé de côté et en plus de ça, le pauvre, il n'a pas d'amis, donc son enfance n'est pas très joyeuse. C'est en partie ce qui le pousse pendant son adolescence à commettre des petits crimes à droite à gauche. Ahmad est un petit délinquant et il va finir en prison à cause de ça pendant 10 ans quand il a seulement 18 ans. Et là-bas en Indonésie, il rigole pas. Je vous donne un exemple, tu es trafiquant de drogue, t'es condamné à mort. D'accord ? Donc la prison en Indonésie, c'est pas fun, c'est vachement corrompu, c'est le bordel. Je sais pas si vous avez déjà vu la série documentaire Netflix avec Raphaël Rowe qui va dans les pires prisons du monde. Je vous la conseille, vous aurez un aperçu d'où Ahmad se retrouve pendant 10 piges. C'est pas terrible. Quand il sort, il a à peu près 28-29 ans, super. mais il va de nouveau se faire arrêter à ses 32 ans pour avoir volé du bétail. Apparemment, c'est commun là-bas que des gens volent des femmes... Vous n'avez rien entendu, que des gens volent des vaches directement aux éleveurs pour les tuer et les revendre eux-mêmes au marché et se faire du fric. Beaucoup se font arrêter pour ça, Ahmad y compris, donc retour à la case prison. Je peux pas vous dire combien de temps il y reste, j'ai pas l'info, mais il finit par en ressortir, malheureusement. C'est à ce moment-là qu'il décide de changer de nom, il ne veut plus se faire appeler Nassib, mais Ahmad surréagit et il s'achète une baraque à Medan, qui est la plus grande ville de la province indonésienne de Sumatra du Nord. Il se marie avec 3 sœurs, direct, il n'a pas le temps, il prend les 3, et ils vont avoir 9 enfants, toutes femmes confondues. Il a un métier maintenant quand même, il est éleveur de bétail, cette fois-ci il fait les choses légalement, donc il est officiellement éleveur aux yeux de tous. Ahmad, vu qu'il a changé de nom et qu'il est devenu un vrai éleveur, on peut maintenant se dire, waouh, il recommence à zéro dans le village où il s'installe, et du coup cette fois-ci il se fait bien voir. Parce que effectivement, il aide les voisins qui sont dans le besoin, il donne même de l'argent à des associations caritatives, bref, il fait le mec gentil et serviable à fond. Grâce à ça, il est très rapidement bien vu de la communauté, tout le monde le connaît, c'est un brave type, et il a décidé d'ouvrir son petit business sur le côté. Il décide de suivre la même voie que son père, c'est-à-dire sorcier slash chaman. Donc on vient le solliciter à son domicile pour ses services. Je dis sorcier chaman, mais le nom exact c'est Dukun. Les Dukun, ce sont des chamans réputés pour avoir des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs de guérison mystique. Un peu comme de la médecine douce, mais très violente quoi. Les gens viennent le voir dans le but de soigner différents problèmes de leur vie de tous les jours. Des choses comme « je suis moche, est-ce que tu peux m'aider ?»« Mon mari me trompe, est-ce que tu peux m'aider ?»« J'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux m'aider ?»« Je veux des enfants, je veux devenir riche, j'ai mal aux pieds, bref, vraiment tout et n'importe quoi. » Et lui, par le biais de divers sorts et rituels chamaniques, il leur apportait une solution. Enfin, théoriquement. Ahmad, il se rend compte que la plus grosse partie de sa clientèle, ce sont des femmes. Et c'est là que, comme par hasard, il va avoir un rêve en 1986, très exactement, dans lequel il dit que son père décédé lui a rendu visite pour lui dire qu'il fallait qu'il se mette à la magie noire lui aussi, que ça lui permettrait de décupler ses pouvoirs et ses capacités, et que pour ce faire, il allait devoir faire un sacrifice assez spécial. Ahmad dit « Oui, bien sûr, je t'écoute. » Et là, son père lui répond
« Écoute bien ce que je vais te dire. T'as un papier, un stylo ? Tu vas devoir boire la salive de 70 femmes. C'est bon ? Ça va vraiment booster ta carrière de dingue, tu verras. Fais-moi confiance. »
Je rappelle au cas où vous auriez pas bien compris, c'est le fantôme de son père qui lui dit ça dans son rêve. Voilà, donc Ahmad, il a un nouvel objectif dans sa vie. Il se demande comment il va bien pouvoir boire la salive de 70 femmes. Et puis, au final, il en conclut que ce sera plus facile de les tuer d'abord. Son père ne l'a pas précisé, hein, mais pour lui, ça tombe sous le sens en fait. Il dit qu'il aurait pu aller faire la tournée des cimetières pour boire la salive de femmes décédées, mais c'est chiant, c'est long, c'est compliqué. Puis déjà, est-ce qu'il reste de la salive sur les morts ? Je ne pense pas. Il aurait pu aussi attaquer des femmes dans la rue, mais pareil, il risquait de se faire prendre et retourner à la prison. Donc, voilà, il a fait son choix, il préfère tuer 70 femmes. C'est plus facile. Et ça tombe bien, beaucoup de femmes viennent toutes seules à lui pour le consulter. C'est bénef, il a même pas besoin de lever le petit doigt, ses victimes se présentent à sa porte, il se dit que ça va être super facile. Et malheureusement, ça va être le cas. Pendant 11 ans. 11 ans jusqu'au soir du 24 avril 1997. Une jeune femme de 21 ans, Sri Kemala Dewey, demande à un conducteur de pousse-pousse, un jeune homme de 15 ans nommé Andreas, de l'emmener à Datuk. Elle vient de s'embrouiller avec son fiancé et elle a besoin de conseils. Ou qu'il lui jette un sort, je sais pas. Datouk, c'est pas une ville, c'est le nom de chaman de Hamad. Je sais pas si vous me suivez, il a trois noms. Il naît Nasib, ensuite il change son nom en Hamad et ses clients pensent aller voir un Datouk. Voilà. À la base, elle dit pas vraiment l'adresse exacte au conducteur, elle lui dit de l'emmener à mi-chemin. Et puis comme il lui pose plein de questions, il lui demande pourquoi elle veut aller là-bas, etc. Elle répond pas, elle est un peu embarrassée, mais elle finit par lui dire qu'elle va voir un sorcier. Et elle lui fait promettre de garder le secret, ce qu'il fait. Et ils finissent par arriver devant la maison d'Hamad. Il lui demande quand est-ce qu'il revient la chercher et elle lui répond qu'elle n'a pas besoin qu'il l'attende ou qu'il la récupère. Elle se débrouillera toute seule. Bizarre, mais le jeune homme lui dit ok et il s'en va. Ce qui se passe ensuite avec Shriek et Maladoui, c'est ce qu'il se passait aussi avec toutes les autres femmes qui venaient voir Hamad pour leur consultation chamanique, qui, je tiens à préciser, leur coûtait l'équivalent d'environ 200 à 400 euros. C'est quand même un budget. Il l'accueille, il la salue et ça va tout de suite passer aux choses sérieuses. Tout de suite, ils vont procéder au rituel. Peu importe le problème, c'est toujours le même rituel. Il les emmène dans un champ de canne à sucre. Donc je sais pas si vous avez l'image d'un champ de canne à sucre en tête. Si vous savez pas à quoi ça ressemble, c'est très dense, c'est des grandes tiges, des cannes, hein, littéralement c'est leur nom. Et au bout il y a du feuillage qui est assez long. Donc quand vous vous tenez dans un champ de canne à sucre, on vous voit plus quoi, ça dépasse carrément votre tête. Arrivés au milieu du champ, bien sûr il y a personne, ils sont cachés de bout à bout par les plants. Et il va lui dire, let's go, on commence le rituel, tu vas commencer par creuser un trou. Elle se met donc à creuser un petit peu, puis il lui dit, non encore, il faut que tu puisses rentrer dedans en fait. Ok, donc elle continue de creuser, et quand ça fait la moitié de sa taille, il lui dit de se mettre dans le trou, ce qu'elle fait. Il prend la pelle à son tour et commence à refermer le trou de terre autour de la jeune femme jusqu'à sa taille de sorte à ce qu'elle soit immobilisée. Maintenant qu'elle ne peut plus bouger, il l'étrangle avec un câble électrique. Puis il lui ouvre la bouche et il prend une petite gorgée de salive. Désolé. Je me demande si quand elle creusait le trou, elle croyait vraiment à 100% que ça faisait part du rituel ou si dans le coin de sa tête, elle trouvait ça chelou et avait des doutes sur ce qui allait se passer. Parce que du coup, si tu sais que tu creuses ta tombe, enfin, c'est horrible. Mais je pense qu'elle savait pas parce que sinon, ça devait être assez facile, entre guillemets, de s'enfuir dans le champ de canne à sucre, non ? Enfin, de se cacher dedans. C'est assez dense, enfin, je sais pas. Enfin, bref. Ensuite, il l'a déshabillée. La partie qui dépassait en tout cas, et il l'a recouvert de terre. Et petit détail creepy dans cette affaire, Hamad, il arrangeait toujours la victime pour qu'elle fasse face à sa maison. En fait, il leur tournait le visage en direction de sa maison, vers lui, parce qu'il croyait que ça allait lui donner encore plus de force et de pouvoir si elles étaient tournées vers lui, comme des tournesols. Trois jours plus tard, le 27 avril 1997, un voisin qui marchait à travers ces mêmes champs de canne à sucre pour aller nourrir ses bêtes aperçoit un petit monticule de terre fraîche et il se demande ce qu'il peut bien y avoir en dessous parce que ça lui paraît louche. Comme ce n'est pas sur ses terres et qu'il n'a théoriquement pas le droit de creuser, il retourne en ville et il va demander l'autorisation au chef de village de regarder ce qu'il se passe sous ce monticule. Très curieux cet homme, hein, quand même, il devait avoir l'air sacrément louche pour qu'il se donne autant de peine pour un tas de terre, je trouve. Il obtient l'autorisation et, accompagné de 6 autres villageois, il revient au monticule. J'adore ce mot, monticule. Et la première chose qu'ils font quand ils y sont, c'est d'enfoncer un grand bâton dedans. Et là, l'odeur les prend au nez. Ils la reconnaissent tout de suite, ils y sont habitués. Ils savent qu'il y a quelque chose de mort là-dessous, donc ils retournent immédiatement au village et ils demandent de l'aide à des militaires. Ceux-ci leur répondent qu'ils ont qu'à commencer à creuser pour être sûr que c'est vraiment un corps, et si c'est le cas, revenez nous le dire le plus vite possible. Ils ont l'air bien occupés, dis donc. Rebelote, ils y retournent une fois de plus, ils commencent à creuser et ils trouvent le corps en décomposition de Sri Kemala Dewi. L'un d'eux la reconnaît et va prévenir sa famille. C'est sa mère qui va venir identifier le corps et juste en voyant ses jambes, elle reconnaît sa fille immédiatement. Le conducteur de Pousse-Pousse raconte qu'il l'avait conduit chez Ahmad et qu'il n'était pas retourné la chercher selon son souhait. C'est là que la police va se rendre au domicile d'Ahmad, l'arrêter et l'envoyer au poste pour l'interroger pendant 4 jours entiers. Au début, Ahmad dément toutes les accusations, puis il va finir par leur avouer le meurtre de Sri Kemala Dewi parce qu'il retrouve son sac à main et ses vêtements, ainsi que ses bijoux, chez lui. Il leur précise que ça lui a pris un bon quart d'heure pour la tuer et que sa femme, Tumini, l'a aidé à déshabiller le cadavre. Après, sûrement dans un élan de fierté, il va révéler à la police que ce n'était pas la seule femme qui l'a tuée. Il leur avoue que pendant 11 ans, il a fait la même chose à 42 femmes et que par la même occasion, il leur dérobait leur argent et leurs effets personnels pour s'enrichir. Il dément toute implication de sa femme dans les autres meurtres, il dit qu'elle ne l'aurait aidé que cette fois-ci à cacher le corps. Ceci dit, ça n'empêche pas la police d'arrêter les trois femmes pour les interroger une par une. Il leur pose quelques questions et finissent par ne garder que Tumini, la plus âgée, celle qui était la complice d'Ahmad. Les deux autres sont relâchés et vont vite déménager dans un autre village pour se faire oublier. Toutes ces déclarations, c'est bien beau, mais maintenant la police elle doit aller sur place, dans le champ à canne à sucre, pour trouver et déterrer les 42 corps de ses victimes. Tout ça, c'est une sacrée révélation pour la police parce que justement, 80 femmes sont portées disparues à ce moment-là dans leur ville. Et c'est quand même incroyable que les gens qui ont conduit une partie de ces femmes chez Ahmad n'ont jamais fait la connexion avec leur disparition. Mais bon, après, je sais pas si peut-être elles y allaient elles-mêmes, à pied ou quoi, je sais pas du tout. Donc voilà, on note. On note quand même que c'est bizarre. Des familles de femmes disparues sont venues identifier les corps qui étaient encore en mesure d'être identifiés parce que certains étaient quand même très vieux, ils pouvaient dater d'il y a 3 mois comme il y a de 11 ans. Donc seulement 4 ont pu être identifiés assez rapidement parce qu'ils étaient encore assez frais. Mais la plupart des autres restes humains ont dû être incinérés. La police pense qu'Ahmad doit sûrement avoir fait plus de victimes que ça, plus que 42 femmes. Ils n'ont pas retourné tout le champ de canne à sucre non plus, ils ont au moins retrouvé les 42 corps, mais ils suspectent que parmi les 38 femmes toujours portées disparues, qu'ils ont peut-être fait un tour chez Ahmad. Après franchement, vu qu'il avait un objectif de 70 femmes et qu'il a avoué en avoir tué 42, qu'ils en retrouvent exactement 42 dans le champ de canne à sucre, j'ai plus l'impression que c'est la police qui essaie de mettre le reste de leur disparition non résolue sur le dos d'Ahmad, parce que clairement, s'il en avait vraiment tué plus, il aurait pas hésité à le dire, vous pensez pas ? Ahmad dit, je cite,
« Mon père ne m'a pas spécifiquement conseillé de tuer des gens. Alors, je me disais que ça prendrait des années si je devais attendre pour avoir 70 femmes. J'essayais d'y arriver le plus vite possible. J'ai pris l'initiative de tuer. »
Il dit que quand il n'avait plus de clientes à se mettre sous la main, il allait lui-même chercher ses victimes en ville, des prostituées. Il ajoute,
« Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous nos qualités et nos défauts. Et si je me souviens bien, j'ai tué 42 femmes. »
Ouais, d'accord, Ahmad, mais du coup, qu'est-ce que t'essayes de nous dire là? J'ai pas compris. Imagine, t'as un entretien d'embauche, tu lui demandes ses qualités et ses défauts, et il te sort ça. J'ai tué 42 femmes, si je me souviens bien.
Ok.
Ahmad, en gros, il nous dit qu'il est déçu d'avoir été arrêté en si bon chemin, qu'il était content d'en avoir tué 42, mais qu'il aurait vraiment aimé atteindre son objectif de départ qui était 70. C'est sans surprise qu'il est condamné à mort. Avant de mourir, il demande à voir sa femme Tumini une dernière fois, qui, elle, a également été condamnée à mort, mais au final, sa peine a été réduite à la prison à vie. Sa demande lui est accordée, il peut rendre visite à sa femme, puis il est exécuté par peloton d'exécution, donc par arme à feu, le 10 juillet 2008. Voilà, c'était l'histoire d'Ahmad Suradji. J'espère que vous avez aimé cet épisode. C'est quand même incroyable qu'il ait réussi à s'en tirer pendant plus de 11 ans quand même. Est-ce que vous pensez qu'il a pu tuer plus de femmes qu'ils en ont retrouvées dans son champ, donc plus que 42? Moi, je pense que ça peut être possible, évidemment, mais il est tellement à fond sur son 70 qu'il les aurait sûrement pris en compte. Il s'en fout complètement, en fait, de passer pour un serial killer ou quoi. C'est normal pour lui, ça fait partie de son rituel. On dirait qu'il voit pas ce qu'il a fait de mal, donc je crois pas qu'il aurait du mal à avouer plus de meurtres s'il en avait fait, justement. En plus, à ce qu'il paraît, une grande partie des victimes étaient des prostituées qui n'avaient plus de lien avec leur famille, donc quand elles ont disparu, personne ne s'en est plaint, personne ne l'a signalé. Donc ça a contribué à ce qu'il passe à travers les mailles du filet, enfin du filet, il faudrait déjà qu'il y en ait un, vu que personne n'était à ses trousses pendant 11 ans. Une chose est sûre en tout cas, il n'a pas réussi à boucler son objectif, donc on est bien content. Il y a quand même eu 42 victimes, hein, on les oublie pas, mais voilà. On est bien aussi content que l'éleveur qui marchait par là 3 jours plus tard, il était assez curieux pour s'arrêter et se questionner devant le tas de terre. En vrai, il aurait pu juste le voir et passer son chemin. Hein. Franchement, je pense que j'en aurais rien à carrer. Non, lui, il a eu vraiment envie de savoir ce qu'il y avait en dessous, donc tant mieux pour lui, ça a permis la découverte de toutes les victimes, donc on le remercie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire? Je vous laisse un petit sondage sur Spotify si vous pensez qu'il a fait plus de 42 victimes. Dites-moi oui ou non, il y a juste à cliquer. Et venez aussi me le dire sur Instagram, Twitter, où il y a même les commentaires sur Spotify, vous pouvez écrire. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas, ça m'intéresse de parler avec vous à chaque fois après chaque affaire. Sur ce, j'espère vous retrouver dimanche pendant mon live Twitch. N'oubliez pas de vous abonner aussi au podcast. Ça fait avancer le schmilblick. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire bien
creepy.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
T'es encore là? Envie d'écouter plus d'épisodes de C'est Creepy? Une 12aine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, 12aine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend.
Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balles à blanc, en fait.
Ok.
C'est pour faire peur.
Je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas ce qu'on s'appelle. Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache. Sauf qu'à l'époque, ils sont pas très très microbes et bactéries. Du coup, Charles décide d'écourter son séjour à Paris et rentre au Glandier le 3 janvier au bout de sa vie. Ou plutôt au bout du rouleau de PQ. Et c'est Marie. Vu qu'il y avait des doutes de meurtre, prouvez à tout le monde que ce n'est pas un meurtre, prouvez que c'est un suicide. Refaites les tests, montrez que bah voilà, avec la corde, nanana, lancez le truc par-dessus bord. Non, ils ont rien fait. C'est aberrant.
Quelle indignité.
Sache que tu peux aussi, dès aujourd'hui, rejoindre mon Patreon gratuitement pour tester et écouter un épisode exclusif. Tu auras tout de suite accès à l'épisode sur la macabre histoire d'Ed Gein,
mais aussi à la version vidéo de mes épisodes publics que je commence à filmer pour que vous ayez accès aux coulisses. Pour rejoindre, rien de plus simple, tu trouveras le lien Patreon dans la description de cet épisode. À tout de suite pour plus d'histoires bien
creepy.